Chicken Feet with China. No time for friends off.
Radio Canut 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canut Info de ce 28 octobre 2013. Un certain nombre de petits problèmes techniques à régler. Et nous nous retrouvons pour aborder avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex, la partie internationale de ce Canut Info. Robert, as-tu un sujet par lequel tu... Je pense qu'il est bon d'ouvrir ce Canut Info.
Oui, on peut peut-être ouvrir avec Barack Obama qui va au-devant d'une situation qui peut s'avérer compliquée. On n'en est pas encore à voir se profiler une sorte de Watergate, mais on ne sait pas trop jusqu'où va aller cette situation très désagréable qui veut faire que on ne sait pas s'il a été au courant de l'espionnage de la planète entière, y compris de ses alliés principaux comme Merkel. Et s'il n'était pas au courant, on peut même s'étonner que dès ces jours-ci, il n'a pas pris la décision de licencier le général Alexander, je crois qu'il s'appelle comme ça, patron de la NSA. Alors, est-ce que c'est une structure, finalement, sur laquelle il n'a aucun pouvoir? Tout ça, ça paraît assez trouble. Et peut-être qu'il est un homme qui détient la clé de la réponse. C'est peut-être Snowden. Snowden, mais où est Snowden? Snowden est à Moscou. Et donc, peut-être a-t-il des choses qu'il a repérées, qu'il dira ou qu'il ne dira pas, et qui peut être aussi un moyen utilisé comme moyen de pression par les Russes sur Obama. Tout ceci pourrait faire le jeu, effectivement, d'une déstabilisation d'Obama, une déstabilisation que forcément la droite républicaine, même si elle n'a pas de grand leader à lui opposer en ce moment, ne serait pas fâchée que ça se produise compte tenu de l'échec qu'elle a enregistré, notamment sur le vote à la fois du budget et le vote finalement qui a fait passer dans les actes la sécurité sociale made in USA. Alors on pourrait simplement peut-être suggérer à la communauté internationale, comme on dit, voire à l'ONU, eh bien qu'elle fasse comme ce qu'elle est en train de faire par des spécialistes, c'est-à-dire la destruction des armes chimiques de Syrie, en les sortant de Syrie, en les faisant détruire. Alors pourquoi pas l'ONU ne décide-t-elle pas d'organiser la destruction de tous les services d'espionnage, quels qu'ils soient et où qu'ils soient? Question.
Oui, on peut se demander quand même, c'est un petit peu étonnant cette affaire, quoi, parce que le président puisse ne pas être au courant, bon, sauf si c'est un complot ourdé contre lui, il est quand même censé l'être. Et puis il y a d'autre part cet aspect médiatique, c'est-à-dire qu'il y a des grandes oreilles chez Big Brother et qu'il y en ait aussi chez nous pour écouter Big Brother, peut-être un peu moins grande, c'est vraiment pas un scoop, quoi. Sauf si, médiatiquement, ce scoop-là vient pour couvrir et faire oublier ou du moins passer à autre chose après des affaires un petit peu minables comme Leonardo en France. Mais en même temps, bon, c'est vrai que ça ne touche pas que la France, puisque après la France, aujourd'hui, c'est l'Espagne qui aurait aussi été écoutée, l'Allemagne, bien entendu, Merkel. Et puis, un autre aspect qu'on a envie de souligner, c'est que ces écoutes, elles sont peut-être, elles ont comme prétexte sans doute la lutte contre le terrorisme, mais en réalité, c'est peut-être surtout la lutte économique. C'est peut-être surtout des écoutes destinées à être au courant des manœuvres économiques des uns et des autres pour mieux les contrer et placer ses propres produits. Il y a différents aspects à ces questions. Voilà pour un sujet. Peut-être dire quelques mots de la Palestine avec ce sujet franco-palestinien de la libération impossible, on va retrouver d'ailleurs les Américains, de Georges Ibrahim Abdallah, condamné en 1987 à perpétuité et qui, selon les règles habituellement pratiquées de réduction de peine et autres, devrait être libéré depuis un certain temps. Et à chaque fois que des demandes de libération sont faites, eh bien, elles sont refusées. Alors elles sont refusées, semble-t-il, essentiellement parce que bon, cet homme-là a été responsable en 84, hein, enfin peut-être même avant, il a été arrêté à Lyon en 84, de la mort d'un diplomate américain et d'un diplomate israélien. Et les Américains, depuis sa condamnation, font pression sur la France pour qu'en aucun cas il ne soit libéré, alors que il est libérable depuis 1999, ça fait quand même 14 ans, et qu'il serait expulsable au Liban, qui est prêt à l'accueillir. Donc on voit bien là aussi la pression américaine qui s'exerce sur une justice et un pouvoir politique français, de droite comme de gauche d'ailleurs, puisque les demandes de libération ont été faites sous Sarkozy sans plus de succès. 30 ans de prison, 62 ans, et on pourrait quand même penser qu'il mérite d'être élargi. Et en plus, légalement, il a le droit d'être élargi. Mais alors ses avocats, une nouvelle fois, ont remis la pression. Et samedi, 350 personnes manifestaient à Lannemezan devant sa prison. On va voir si Hollande, qui est en général si sensible aux pressions, cède à celle-là aussi. Et puis peut-être pour la Palestine, puisqu'on y est encore, dire un mot de ce qu'il en est de l'occupation au quotidien avec cette cueillette des olives dont la saison est arrivée et qui est pratiquement sabotée par les Israéliens qui ne laissent pas aux Palestiniens qui ont encore des terrains avec des oliviers quand ceux-ci ne sont pas détruits, puisqu'on en aurait détruit 7000 en 2013 et en plus des blessés chez les gens qui travaillent sur ces terrains, puisque les colons se permettent de leur jeter des pierres ou de s'en prendre à eux avec des armes, quoi. Donc l'exemple de ce colon qui a deux jours pour couper ses olives et les récupérer alors qu'il lui faudrait deux semaines et qui en plus subit les agressions des colons qui entourent son terrain. 100 000 familles vivent des olives sans pouvoir les entretenir, ce qui fait que les oliviers perdent beaucoup de leur rendement et que, paraît-il, un olivier qui est abîmé, il lui faut 20 ans pour retrouver une récolte normale. On voit là, une fois de plus, un des effets de cette colonisation, c'est un mot qui se suffit à lui-même, des Israéliens contre les peuples et les paysans propriétaires des terres palestiniennes. Voilà, tu voulais peut-être aborder un autre sujet ?
Oui, peut-être franchir l'Atlantique et puis se retrouver en Argentine où on a voté. C'était une élection partielle parlementaire. Ça concernait donc l'élection de députés. Les sondages ainsi que la plupart des médias occidentaux qui n'aiment pas beaucoup Cristina Kirchner parce qu'ils la trouvent trop à gauche et puis c'est quelqu'un qui avait des mauvaises fréquentations dans la région, tout ça, eh bien l'annonçait perdante. Or en fait elle a perdu un peu, elle a perdu son parti. Son parti a perdu le Front pour la Victoire, le FPV, a perdu quelques plumes, mais pas de quoi remettre en cause sa majorité absolue au Parlement. Ce qui fait que, alors bon, Buenos Aires, la province, la région de Buenos Aires a été perdue par son parti, mais au profit d'un dissident du péroniste, qui d'ailleurs a occupé des places, une place importante à ses côtés il y a quelques années. Donc on peut dire que c'est une... Elle perd, son parti perd des quelques plumes, mais en fait, ça reste dans la famille péroniste, et les réformes de gauche... progressiste, disons, on va plutôt employer le mot progressiste qu'elle avait entreprise, notamment la nationalisation du pétrole, le contrôle des importations, la taxe sur les exportations, notamment le soja qui alimente, comme le pétrole, qui alimente le budget public, qui est redistribué plutôt vers la santé, vers l'éducation, vers les plus pauvres. Alors évidemment, l'inflation, alors c'est ce que l'on invoque toujours, on dit l'inflation 20%, c'est abominable vu de l'Occident, vu d'Europe, mais on ne parle pas trop de la croissance qui, elle, est de 5% quand en Europe on est à 0% quand ça n'est pas moins. Donc on voit bien toute la mauvaise foi souvent que l'on relève lorsque l'on parle de l'Argentine, de Cristina Kirchner, en Europe, la mauvaise foi de ceux qui en parlent. Elle est au pouvoir pour son ultime mandat jusqu'en 2015. Elle ne pourra pas se représenter une troisième fois. Bon, les rumeurs souvent disent qu'elle est gravement malade. Mais en fait, effectivement, en ce moment, elle est en convalescence et elle n'est pas très disponible pour l'exercice de sa charge de présidente. Mais néanmoins, elle est là. Et surtout, ce qui est important, c'est que malgré son absence, les forces qu'elle a su mettre en mouvement pour le progressisme n'ont pas connu un échec retentissant comme ce qui était annoncé. On dirait qu'il y a 30 millions d'électeurs en Argentine et que pour la première fois, et c'est quelque chose d'assez exceptionnel sur la planète, dans ces modes de fonctionnement, on va dire démocratique, c'est qu'on votait à partir de 16 ans. On votait à partir de 16 ans en Argentine maintenant.
Voilà pour ce sujet. Allez, refranchissons un coup les océans et allons voir en Tunisie, là où on en est ce soir, enfin à l'heure qu'il est, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on sait qu'il y a un processus politique en cours qui vise à lorsque Ennahdha quitte le pouvoir pour le remplacer par des gens de un gouvernement de la société civile. Ennahdha veut bien démissionner, mais on peut dire qu'il y met toute la mauvaise volonté possible, puisqu'après deux faux départs et du retard, on est toujours en train de négocier. Et cet après-midi, il y avait une négociation avec 21 partis pour trouver un nouveau Premier ministre qui lui-même pourrait mettre en place donc ce nouveau gouvernement. Pendant ce temps-là, dans la rue, des manifestants étaient présents pour appeler au combat contre le terrorisme. On voit que c'est une situation compliquée, instable, dans un environnement où il y a quand même eu en quelques semaines 20 gendarmes tués par des groupes armés islamistes. Donc le pouvoir en place, enfin les gens qui gravitent autour du pouvoir essaient d'obtenir de Ennahdha qu'ils veulent bien se dégager des responsabilités auxquelles ils sont depuis 2 ans sans résultat plausible, visible. Quoi. Voilà, tu veux peut-être ajouter quelque chose, non ?
On va peut-être aller vers l'Europe, surtout notamment cette Europe.
Je vais peut-être faire une brève sur l'Algérie pendant qu'on est dans le Maghreb, mais ça c'est une brève. On vient de découvrir, paraît-il, 1,3 milliard de barils dans un nouveau gisement de pétrole à 110 km d'Assim et Saoud. Voilà, qui va relancer, je ne sais pas si c'est le niveau de vie de la population algérienne ou celui des énarques. Mais en tous les cas, c'est une belle découverte économique. Allez, vas-y.
L'Algérie, elle a un trésor au niveau de l'État, mais ce trésor, Bouteflika est assis dessus et il se contente en grande partie souvent de laisser ses anciens amis d'en profiter. Et ce n'est pas le peuple qui est le grand bénéficiaire de la richesse de l'Algérie, qui, avec son pétrole, qui est une richesse avérée, reconnue, même si l'Algérie aide des pays en Afrique. Elle est un peu... elle voudrait avoir, mais elle n'arrivera jamais à le faire, parce qu'elle n'aura jamais peut-être les moyens, mais remplacer Kadhafi et la Libye de Kadhafi qui donnait, qui aidait beaucoup des pays africains, notamment subsahéliens, et donc l'Algérie, mis dans cette disposition d'esprit, mais il serait bien que une plus grande démocratie sociale existe dans ce pays-là. J'évoquais l'Europe pour parler de ces grandes messes électorales. Alors bon, faut les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément de grande signification et ne produisent pas forcément de grands bouleversements. Parlons d'abord de la Géorgie où, par contre, l'ancien président, qui ne pouvait pas se représenter, mais les hommes proches de l'ancien président Saakachvili ont été battus dans l'élection présidentielle. C'est un prof qui a été élu, un prof de philo. Alors c'est assez... Mais en fait, ce prof de philo, on dit qu'il est complètement entre les mains d'un premier ministre qui lui a beaucoup d'argent. Et simplement, on pense qu'il y aura une réorientation vers ce qu'est, l'allié, entre guillemets, naturel, c'est-à-dire la Russie. Or, on se rappelle qu'il y avait une guerre qui avait opposé les Géorgiens aux Russes, notamment à propos de l'Ossétie du Sud. C'est une question qui, dans les mois qui viennent, devrait donc se régler.
Oui, autre élection, c'est la Tchéquie, hein, qui avait des législatives, un premier tour, quoi, avec un parti social-démocrate qui arrive en tête, mais avec un score tellement faible, 20,45%, qu'il ne gouvernera pas tout seul, on s'en doute bien, il s'appelle le CSSD, il gouvernera même pas seulement avec le parti communiste de Bohème-Moldavie qui a fait presque 15%, le KSCM, et ils vont devoir, pour constituer une majorité, s'associer avec un parti qui s'appelle l'ANO, l'Action des citoyens insatisfaits, vous voyez d'ici le programme, qui eux ont fait 18% tout de même, et un parti monté sans doute largement populiste, par un richissime industriel qui surfe sur le mécontentement populaire dans le pays. Voilà.
On avait la semaine dernière, toujours chez les voisins hongrois, une grande manifestation parce que c'était la fête nationale et le col avec le rappel de l'insurrection de 1956 à Budapest. Alors il y avait deux manifestations, il y avait la manifestation de Orban, hein, qui est le grand chef, et qui populiste et nationaliste, et qui a réuni entre 200 et 500 000 personnes. Bon. Et puis les socialistes avec quelques autres qui étaient donc plus sur sa gauche, même si ça n'a pas beaucoup de signification au niveau des orientations par rapport à la diplomatie tournée vers l'Europe, et qui n'ont rassemblé eux que 25 à 30 000 personnes. Effectivement, c'est un échec de tous les autres courants, mais Orban est suffisamment habile pour à la fois se tourner, enfin, défendre des idées nationalistes, populistes. On rappelle qu'il a été un grand artisan anticommuniste après 1990, pour aussi continuer d'utiliser l'Europe et de faire pression sur l'Europe pour qu'il soit reconnu et obtenir des avantages également de ce côté-là.
Parler du Portugal aussi en Europe, où les manifestations se poursuivent dans 10 villes ce week-end dernier contre l'austérité, avec une tension qui augmente. Hein, c'est le pays où déjà il y a un an il y avait des manifestations similaires, mais où le budget de rigueur qu'on veut imposer à la population entraîne un refus. Il faut savoir qu'au Portugal, le SMIC est à 485 euros et que dans le nouveau projet, on propose de diminuer les salaires des fonctionnaires qui gagnent plus de 600 euros. Je vous rappelle qu'on est dans l'Europe, donc on devrait avoir une certaine homogénéité des revenus entre tous les pays de l'Europe, de diminuer leur salaire de 2,5 à 12% quand ils gagnent plus de 600 euros. C'est vraiment la richesse indécente, 600 euros, n'est-ce pas? Donc on comprend l'émoi des populations et leur détermination à vouloir faire reculer ces décisions.
Oui, et droite et gauche portugaise ont intérêt à régler les questions sociales avant l'année prochaine, puisque l'année prochaine, 1974, ça sera les 40 ans de la révolution des œillets, et donc les partis institutionnels vont peut-être souffrir à cette occasion-là s'ils n'ont pas réglé la crise, ce qui sera sans doute le cas.
Voilà, on n'a rien dit de l'Iran, où il se passe pas mal de choses, enfin au moins deux choses. D'une part, l'action de Brahimi, qui est en tournée dans le Proche-Orient pour essayer d'organiser son Genève 2, un round de négociations autour de la guerre en Syrie. Et lui a déclaré qu'il souhaitait inviter l'Iran à Genève 2. Alors ça n'arrange pas vraiment tout le monde, on s'en doute bien, un Genève 2 dont on voit l'arrivée sous les plus mauvais augures, puisque semble-t-il aucun des partis combattant sur le terrain, des opposants donc à Al-Assad, ne veulent participer à cette réunion. Et puis Iran toujours, négociations à Vienne en cours avec l'AIEA pour une question d'accès aux sites sensibles. Ça ne va pas tout seul forcément, mais bon, on négocie. Voilà, avais-tu d'autres infos?
Oui, tu parlais tout à l'heure d'Abdallah et de son maintien en détention alors qu'il devrait être libéré depuis longtemps. Eh bien, une situation assez paradoxale vient de se produire en Espagne, puisque la Cour européenne a intimé à l'Espagne le devoir de libérer quelques dizaines de membres de ETA, tout simplement parce qu'ils ont épuisé les peines pour lesquelles ils ont été condamnés et ils sont maintenus en détention. Alors ça ne s'appelait pas du tout aux Espagnols, enfin surtout la droite espagnole, et même et qui utilise largement le rappel historique des victimes d'ETA pour dire non, c'est pas question de laisser faire, pas question que ces gens-là soient libérés.
Oui, avec des manifestations dans la rue, où des gens sont appelés à se mobiliser contre ces libérations. On ne sait pas bien comment les Espagnols vont s'en sortir, puisque légitimement, tous ces gens ont le droit d'être élargis. Voilà, on clôt là notre rubrique internationale, on peut...
Et oui, on aurait aimé donner des résultats sur le vote présidentiel à Madagascar, mais je n'en ai pas vu.
Ouais,
et ça fait pourtant déjà 2-3 jours que ces élections ont eu lieu.
Bon, on peut dire
il y avait 33 candidats, je crois.
On peut dire un mot aussi d'un curieux attentat en Chine, pour peu qu'il s'agisse d'un attentat. Une voiture qui fonce dans la foule sur la place Tiananmen, il y a pas mal de blessés, et qui explose cette voiture. Alors, qui, quoi, on ne sait pas, parce que la police a très vite verrouillé toutes les choses et les informations. Pour le moment, ça reste un petit peu mystérieux, mais c'est sûrement pas anodin et un simple accident de la circulation. Allez, on va faire notre pause musicale avec Jean-Michel Piton, dont on n'a plus entendu parler depuis un certain temps. Il nous revient avec un nouveau disque, quelques chansons particulièrement fortes. Celle-là, qui porte bien son nom, s'appelle L'Anonyme. Elle est complètement en résonance avec nos informations.
L'anonyme, l'intouchable, où se planque-t-il vraiment? Peut-être en dessous des tables, ici même, en ce moment. Chaque endroit où il se cache est un secret bien gardé, pour que jamais on ne sache d'où les ficelles sont tirées. Ventre vide et jour de fête ne sont pas du même bord. Tout se vend et il achète, même la vie et la mort. Toujours rester magnanime est un geste capital. C'est la bourse qui anime les chiffres de sa morale.
Devenez plus riche que riche pour le joli pied de nez. Le slogan de cette affiche, c'est lui qui l'a inventé. Vas-y, crache ton amiante, silicose à plein poumon. Les mandarins se contentent de l'ordre et de la raison. Pavillon de complaisance, hissé sur ses vieux rafiaux, flotte au large de sa conscience dans des paradis fiscaux. Devenez plus riche que riche, mais la carotte est râpée. Ce bonheur dont il se fiche n'est pas sa priorité. L'hôtel vétuste qui brûle, où périssent femmes et enfants. Investissement ridicule, faut de nouveaux bâtiments. Pour s'indigner, on se presse, on condamne à tour de bras. Comme c'est lui qui tient la presse, elle dira ce qu'il voudra. Devenez plus riche que riche, mais pas besoin d'espérer. Le trésor de ceux qui trichent n'est jamais à partager.
Protégé du tout séisme, il admet bien volontiers qu'il faut un sacré cynisme pour voir les gens en crever, ne pas connaître la honte, sourire devant l'objectif. Quand il doit rendre des comptes, il faut qu'il soit positif.
Devenez plus riche que riche, vous pouvez toujours rêver. Le fric, le pèse ou l'artiche, c'est lui qui va le palper. Les pays sont complices et dans la peur tous égaux. Car avec son couteau suisse, l'anonyme leur fait la peau. Le requin, lui, quand il chasse, est toujours fier de ses dents. L'anonyme tue sans trace, car il garde ses gants blancs. Devenez plus riche que riche, ou le joli pied de nez. Le slogan de cette affiche, c'est lui qui l'a. Hein.
vous risquez pas de voir chez Drucker Jean-Michel Piton, compositeur, parolier et interprète de l'anonyme. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce 28 octobre 2013 avec Robert en duplex, Jean-Pierre dans les studios pour aborder la rubrique nationale. On commence par quoi ? La politique ?
On va faire, oui, peut-être un petit tour du côté de la gauche dite de gauche, gauche de gauche, c'est-à-dire tout ce qui est à gauche du Parti Socialiste, bien que ça concerne également largement le Parti Socialiste qui se trouve impliqué et qui veut forcément s'impliquer dans cette affaire de préparation des élections municipales. Bon, on en est loin, on est à 6 mois, mais néanmoins, peu partout se forment des... Alors, les discussions ont lieu, soit des discussions au sommet d'appareil, soit des discussions où on essaye de mobiliser les électeurs, la population, les citoyens, les citoyennes, notamment celles de gauche, pour faire que les décisions soient de bas en haut et non pas de haut en bas. Tout ça pourquoi ? Parce que la situation est des plus complexes, parce que le front de gauche n'a pas une position, et ça on l'avait compris depuis longtemps, n'a pas une position unanime sur la question de savoir si on fait des listes d'autonomie ou on laisse faire un peu avec le... selon les cas, vis-à-vis du PS ou vis-à-vis de membres du PS. C'était pour les villes de plus de 20 000 habitants, pour lesquelles le parti de gauche était parti très, 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 très fermement en disant partout des listes d'autonomie, ce qui sans doute ne sera pas le cas. Et on a déjà une preuve importante avec Paris, où un accord est intervenu entre les communistes et les socialistes autour de Hidalgo, qui sera tête de liste, avec le responsable communiste tout de suite derrière. Mais un peu partout, donc, ça discute. Alors, on sent bien que, aussi bien du côté du parti de gauche que du parti communiste, on ne veut pas monter trop le ton, de telle manière que tout reste possible, et surtout que ça ne fasse pas exploser le front de gauche. On a aussi l'exemple dans de nombreuses villes, où d'ailleurs, y compris des gens du parti de gauche de Mélenchon, veulent, comme certains communistes, rester avec les socialistes qui sont au pouvoir dans certaines villes. Donc le comportement des membres, des élus du parti de gauche n'est pas forcément aussi solide que le souhaitait Mélenchon. Les grandes villes, donc on a compris, Paris, ma foi, ça a pris de vitesse tout le monde, et Mélenchon dit que c'est une catastrophe.
Marseille. Anne Hidalgo a mis le front de gauche dans sa poche à Paris, non ?
Oui, avec effectivement des éléments d'acceptation de programme, mais qui font effectivement, c'est pas, on peut pas dire que c'est un grand programme progressiste qui a été signé entre les communistes et les socialistes. À Marseille, on se dirige vers une liste front de gauche. Il y a d'autres villes, on parle des grandes villes, par exemple Bordeaux, enfin c'est des villes, dans plusieurs villes de droite, il semble que c'est plus facile de faire des listes autonomes, front de gauche, que dans les villes de gauche, évidemment. Et on comprend bien que, effectivement, et c'est ce qu'on voit se passer à Lyon, je crois, où à Lyon, les communistes ont voté, alors ils ont voté pour une liste front de gauche, mais en même temps avec suffisamment de subtilité dans le texte que on ne sait pas du tout où ça va, et d'autant qu'une partie des communistes de Lyon ont décidé, eux, soit son partisan de rester avec Colomb pour constituer la nouvelle équipe qui ira aux élections l'année prochaine. Donc c'est pas simple, c'est loin d'être simple, mais pour l'instant, on va dire que simplement tout le monde fait des gros efforts pour ça n'explose pas.
Alors, autre sujet politique, si on peut dire, c'est la réforme des retraites qui passe aujourd'hui au Sénat. C'est le début des débats sur la réforme. Il y a déjà eu un rejet en commission. Hein. On sait que le Sénat est de droite, donc il y a tout lieu de penser que le projet sera passablement retoqué. 4 articles sur 52 ont été acceptés. Celui de l'augmentation de la durée de cotisation à 43 ans. Là, les socialistes et les UMP sont d'accord, quoi. Contre les écologistes et les communistes ont voté contre la revalorisation des retraites 6 mois plus tard, et puis la pénibilité aussi a fait l'unanimité. Mais de toute façon, même comme que ce soit modifié, tout ça va revenir à l'Assemblée nationale qui va remettre les choses comme elle l'entend.
Il y aura un certain nombre de manifestations qui auront lieu le 30, c'est-à-dire dans 2 jours, et manifestation notamment des syndicats, les syndicats oppositionnels, CGT, FO, FSU et Solidaires, qui appellent à des rassemblements, évidemment, comme tu l'as dit, le 5 novembre, tout ça va se retrouver à l'Assemblée nationale et voter en dernière lecture.
Alors parlons fiscalité et révolte fiscale, puisque révolte il y a. Il faut dire que le PS a l'art de s'en mêler les crayons et de se discréditer auprès de plus en plus de monde. D'une part, donc, cette histoire de taxation scélérate, là, Hollande a dû prendre des cours vers les mafieux marseillais, parce que puiser dans les acquis des gens qui ont obtenu des intérêts sur des placements il y a 10-15 ans, c'est vraiment... Ça rappelle une chose, ça rappelle quand les Grecs ont décidé à un moment donné que les comptes bancaires grecs devaient être prélevés, ponctionnés. Bon, il y a eu un tel tollé que finalement ça s'est pas fait, mais c'est la même démarche, quoi. Qu'on mette en place une nouvelle taxation qui s'applique sur les nouveaux contrats à partir du jour où on les signe, ça c'est logique. Mais que l'État, qui a une parole quand même, et qui l'a donnée dans des engagements il y a 10, 15, 20 ans, revienne dessus aujourd'hui outrageusement, on peut comprendre que les gens s'énervent un peu. Et il n'y a pas que les gens, hein, bien sûr, il y a les puissances financières aussi qui voient leurs intérêts fondre dans ces prélèvements. Donc du coup, après une annonce, le PEL, les plans d'épargne logement, on a décidé de ne plus les taxer. On a décidé de ne plus taxer l'épargne salariale. Mais par contre, on reste pour le moment ferme sur l'assurance vie, enfin dans certaines conditions. Je n'ai pas très bien compris. On pourrait discuter aussi, parce que cette assurance vie quand même, indépendamment des petits pourcents qu'elle a produits au fil des années, c'est aussi un extraordinaire moyen de fraude fiscale. De fraude fiscale aux successions, puisque vous avez des gens qui font des 100 000, 150 000 euros d'assurance-vie pour chacun de leurs héritiers, parce que ces 150 000 euros-là, quand ils mourront, échapperont à l'impôt sur la succession. Alors que la moindre maison, cabane qu'un ouvrier aura mis toute sa vie à construire sera taxée en tant que bien de succession, au-delà d'un montant assez faible. On voit bien que, une fois de plus, la gauche, les socialistes, ne tapent pas là où est l'argent, quoi. Ils tapent sur les petits et ils ne veulent pas s'en prendre aux puissances d'argent, tout comme ils s'intéressent. On ne parle plus des exilés fiscaux, on ne parle plus des bénéfices indécents de Total et des autres qui vont les placer dans les paradis fiscaux. Tout ça, il n'en est plus question. On ne parle que de ponctionner sur les petite somme. Alors, bien sûr, ça engendre du mécontentement qui, à mon avis, va se payer cher au moment des élections, parce que on ne peut pas ainsi mécontenter à la fois son électorat et l'ensemble de la population et espérer être reconduit au pouvoir. Enfin, ce qu'on peut prévoir. Une autre connerie, c'est l'écotaxe. Alors, bien sûr, c'est Fillon qui l'a créé, mais ce petit malin s'étant tiré entre-temps, c'est Hollande qui l'applique. Alors cette écotaxe, c'est aussi une certaine aberration, puisqu'il s'agit chaque fois qu'un camion prend une route départementale ou nationale qui n'est pas une autoroute, on se demande d'ailleurs pourquoi les autoroutes y échappent, de lui coller une taxe qui n'est pas rien, hein, que 15 centimes d'euros au kilomètre, un franc pour les anciens au kilomètre, rajouté donc. Alors on voit là-dessus bien sûr s'élever à la fois les patrons qui voient leur marge diminuer là-dedans et qui poussent les employés à venir manifester, les patrons de la FNSEA et les plus gros, les mêmes qui délocalisent leurs abattoirs à l'autre bout de l'Europe pour que ça leur revienne moins cher, font semblant de s'offusquer de ça, les gens qui vivent, les éleveurs qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts et qui se doutent qu'on va leur répercuter la taxe en question, sans compter que... Personnellement, je ne vois pas en quoi l'ajout d'un impôt, d'une taxe, va résoudre des problèmes écologiques. Si on veut résoudre les problèmes écologiques, on prend les problèmes écologiques. À chaque fois, on nous colle des taxes, des impôts, mais ce n'est pas ça qui améliore la qualité de l'air. Hein. La qualité de l'air, il faut supprimer les camions. Personne ne demande ça. Hein. Et mettre des trains, mais les trains, c'est l'industrie nucléaire, l'électricité, c'est guère mieux. Enfin, tout ça est bien compliqué. Et les gens se sont beaucoup mobilisés en reprenant, en ce qui montre une certaine organisation, les emblèmes des fameux bonnets rouges d'une révolte fiscale des années du XVIIe siècle. Vous n'avez qu'à voir où ça va chercher. Et puis avec un particularisme breton qui est quand même un peu indécent pour les républicains pur jus, puisque les Bretons ne demandent rien de moins que d'être exemptés de la taxe en question, alors que les autres pourraient continuer à la payer. D'ailleurs, c'est déjà fait, puisque au mois d'avril, suite au lobby des élus bretons socialistes, la taxe en question a été divisée par deux pour les Bretons. Mais c'est encore beaucoup trop pour eux. On peut aussi là être penser ce qu'on veut, mais se dire que dans un État comme la France, on ne voit pas pourquoi il y aurait deux poids, deux mesures pour les Bretons et pour les autres. Tout comme on ne voit pas pourquoi les camions passant sous les départementales devraient payer et pas sur les autoroutes pour cette écotaxe, à supposer qu'il faille la maintenir.
Oui, seule circonstance atténuante pour les Bretons, c'est ben effectivement, là, il y a une crise dans l'agroalimentaire très forte et ils utilisent cet argument qui n'est pas sans fondement, mais effectivement qui ne doit pas basculer dans le nationalisme local.
Et puis une petite information annexe qui n'est pas inintéressante. Cette taxe doit rapporter à partir du 1er janvier prochain 1 milliard d'euros par an, quoi. Et ça devrait servir à financer le ferroviaire. On sourit un peu, mais... Et il faut savoir que pour la mettre en place, la création des portiques, les installations dans les camions et tout, l'État a passé un contrat avec de frais de gestion de tout ça, avec une boîte qui s'appelle Ecomove, un contrat sur 11 ans et demi de 2,2 milliards. Et on pense bien que s'ils venaient à supprimer la taxe et à dénoncer donc la mise en place de cette mesure, eh bien il lui faudrait quand même payer les 2,8 milliards. Comme quoi on découvre des trucs assez hallucinants autour du pognon qui se fait sur le dos de ce genre d'impôts. Puis on aurait d'autres exemples qu'on pourrait donner. Alors Robert, as-tu autre chose à ajouter ?
Oui, on reste dans le social. Duflot, Placé et tous leurs amis écologiques, Europe Écologie Les Verts, sont très contents parce que la loi sur qui porte son nom, la loi Duflot, vient de passer au Sénat. On en parlait tout à l'heure des activités du Sénat. Alors effectivement, il y avait deux éléments essentiels dans cette loi. D'une part, alors pour les locataires, c'était obtenir l'encadrement des loyers. Bon. Et pour les propriétaires, c'était la garantie universelle des loyers. Garantie universelle des loyers, ça veut dire que sous certaines conditions, mais apparemment assez facile à obtenir, un propriétaire qui n'arrivait pas à faire payer son locataire, eh bien, pouvait bénéficier de cette assurance, en quelque sorte, de cette garantie universelle. Donc, on voit bien que c'est une loi comme ça, elle est obligée de passer, puisque finalement, elle semblerait vouloir donner satisfaction à tout le monde. Ce qui est, en général, très difficile dans une société, parce qu'il y a toujours des contradictions. Là, il semble qu'on a résolu les contradictions. Mais il semble que, par contre, il y avait d'ailleurs un rapport du Conseil économique et social qui était très réservé sur la réalité de pouvoir, à partir de cette loi, encadrer réellement les loyers. Alors, on verra. Mais pour l'instant, les écologistes triomphent.
Il faut ajouter dans cette loi, ou en marge de la loi, je ne sais pas, mais une décision de prolongation de la trêve hivernale qui allait habituellement jusqu'au 15 mars, jusqu'au 31.
Ouais. Qui avait d'ailleurs été appliqué au printemps dernier, je crois, me souvenir.
Je ne sais plus. Voilà, d'autres infos sociales, eh ben, il y a quoi ? Il y a GoSense à Marc-en-Barœul, on n'en parle pas beaucoup, mais 127 licenciés par un patron qui a décidé de liquider l'entreprise en faisant par des artifices, en facturant à l'entreprise des choses qu'elle n'a pas à payer, on fait apparaître qu'elle est déficitaire, on délocalise et on vire les 127 personnes qui se battent pour obtenir donc de meilleures indemnités, entre autres, puisque il n'aurait qu'en moyenne, il n'y a que 787 € d'affectés à chaque salarié. Le propriétaire de ce maire bénéficiant quant à lui d'une fortune de l'ordre de 114 millions d'euros. Pas la peine qu'il vienne nous expliquer qu'il ne peut pas payer. La SNCM, qui est toujours dans la tourmente, au bord du dépôt de bilan, avec des rentrées d'argent qui ne se font pas, des engagements promis qui ne sont pas tenus. Et aujourd'hui, il y a un déficit de 80 millions d'euros qui peuvent conduire au dépôt de bilan de la SNCM, tenu par Veolia à 66% et par l'État à 25%. Et à 9% par ses salariés. Alors, on va voir comment se gère ce dossier dans les jours qui viennent. Puis un mot d'une grève qui ne fait pas beaucoup de bruit. 35 travailleurs à Bandoufle, dans une boîte qui s'appelle AT France, qui fait de la logistique pour les supermarchés et autres. Et des travailleurs qu'on a fait venir frauduleusement, on peut le dire comme ça, d'Italie, qui avait un permis pour travailler en Italie, qu'on a envoyé en France, et maintenant que le patron sent que ça sent un peu le roussi, il menace de les licencier sous prétexte qu'ils n'ont pas de permis de travail en France, quoi. Des gens qui étaient par ailleurs surexploités dans leurs conditions de travail et dans leurs revenus, ils ont décidé de se révolter et ils barrent l'entrée de l'usine, quoi.
On applique d'ailleurs cette expression anglaise qu'on a trouvée dans d'autres compartiments de la vie actuelle, c'est les low cost, c'est-à-dire tout ce qui est à bas prix. Alors ça peut être les transports, là c'est les salaires et les conditions de travail pour... On estime actuellement à 300 000 le nombre de travailleurs qui seraient en France dans cette situation de low cost. Alors on dit que au niveau du gouvernement, on commence un petit peu à s'en inquiéter et qu'on voudrait voir comment agir sur Bruxelles pour que soit aménagée la fameuse directive européenne de 96 qui permet cette sorte de manipulation de ce qu'on appelle pudiquement les travailleurs détachés.
Voilà, une brève, tiens, en réunion, encore un requin qui s'est goinfré, un touriste véliplanchiste, quoi, les vacances, c'est dangereux, d'être mieux resté au boulot, à certains endroits, et puis plus sérieusement, les sages-femmes qui veulent travailler à domicile, libérales, ont un gros problème, puisqu'on leur colle une assurance obligatoire de 20 000 euros, alors que leur activité... qui est quand même réduite dans le domicile, leur rapporte tout au plus 24 000 euros. Donc elles ont décidé de protester. Ce n'est pas énorme, ça fait dans les 4 000 accouchements par an. Mais c'est une situation qui est anormale. Là aussi, c'est les banquiers qui leur mettent la pression, puisque en plus, on les menace s'il y a un accident dans leur activité d'une amende de 45 000 euros en cas de problème. Donc un problème à la fois médical et social qui est mis en avant. Voilà, tu avais d'autres infos, Robert ?
Oui, peut-être parler des bonnes dispositions dans lesquelles est Vladimir Poutine, puisque même si on ne pense pas qu'il a une aussi grande influence qu'on le laisse entendre en Occident sur la justice russe aujourd'hui, qui quand même acquiert certains éléments d'indépendance, mais déjà le fait que les gens de Greenpeace qui sont en prison en Russie ne sont plus des pirates, mais sont simplement des hooligans, ça peut déjà ouvrir la porte vers quelque chose qui pourrait conduire à leur libération. Peut-être pas dans 7 ans ni dans 15, mais peut-être dans quelques mois. Et puis il a eu ce mot parlant des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi, il a dit que la Russie allait faire tous les efforts maximum pour accueillir tout le monde, quelle que soit leur nationalité, et aussi quelle que soit leur orientation sexuelle. Et effectivement, on avait compris que c'était un débat important sur l'homosexualité en Russie, et donc visiblement là aussi le camarade Poutine veut essayer de désamorcer cette situation.
Il devrait quand même avoir du mal à faire s'affronter les athlètes marocains ou tunisiens avec les Israéliens, parce que
oui,
c'est un problème redondant.
C'est pas gagné, ça, oui. Un petit mot de nostalgie, même si la Yougoslavie de Tito, ça n'était pas forcément le paradis sur Terre, mais c'était quand même mieux que ce qui se passe dans l'ensemble des républiques actuellement qui ont succédé à l'explosion de la Yougoslavie. C'est à l'occasion des obsèques de la veuve de Tito, qui était très, très, beaucoup plus jeune que lui, et donc se sont rassemblés beaucoup de gens et qui ont dit, eh ben oui, c'était peut-être quand même moins mal du temps de Tito.
Voilà, ce Canet Info arrive à sa fin. C'est les périodes des vacances, donc tous les théâtreux sont à l'île de la Réunion, partis faire du surf. Il n'y a pas beaucoup de spectacles, pas tous, mais presque. Et puis, je vous dirai quand même que demain soir, vous pourrez vous mettre à l'écoute de Radio Canet à 20h. Il y a un tremplin qui est consacré au mois de novembre libertaire à Lyon et qui recevra divers intervenants, à la fois organisateurs et animateur de spectacle, pour ce mois d'une multitude de choses diverses, films, débats, et qui se clôturera par le Salon des éditions libertaires les 23-24 novembre à Lyon, dont on reparlera aussi, bien sûr. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de Radio Canu. Ne quittez pas l'antenne. Et rendez-vous lundi prochain. Bonsoir. Et on se quitte sur la musique de Gérard Mémon.